Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Pierre Paulin, 1927-2009. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était designer, de celui qui a arrondi les angles et fait jouer la couleur, de celui qui dessinait des fauteuils en forme de langue ou de citrouille. Jeune, il a le cheveu noir et bouclé, court et bien dompté. Il a l'œil scrutateur, le nœud papillon strict et l'air pas encore tout à fait sûr de lui. Avec le temps, les cheveux s'allongent, il porte de belles chemises bien coupées, parfois des cols Mao, mais l'œil est toujours aussi noir. Plus tard viennent les soupules à col roulé, la mèche soigneusement rebelle, l'air décidé et le sourcil froncé. Il a de faux airs de BHL, il est assez beau, il a l'air de le savoir. Sur une photo, il pose avec des faux airs de Marlon Brando, en t-shirt blanc ajusté, appuyé contre une vieille voiture américaine. Sur d'autres, il est parfois assis sur une de ses chaises ou installé dans un de ses fauteuils, avec une cravate de couleur, jaune, bleu ou mauve. D'autres fois, plus âgé, la crinière blanche fièrement portée, il pose tranquille, seul, en costume chic, ou avec sa femme, un pull jeté sur les épaules. C'est toute une époque qui défile. Alors à l'occasion de la rétrospective qui lui est consacrée au Centre Georges Pompidou, il faut réécouter ce documentaire d'Emmanuel Paul réalisé par Céline Terce et faire connaissance avec Pierre Paulin.
Là, notre coin.
Oh, mais c'est original. On peut s'asseoir.
Je vous en prie, c'est fait pour ça.
Moi, les modes modernes, j'aime pas tellement.
Ah, si, le beau moderne, c'est très beau, mais c'est cher.
Surtout le design.
Voici, ici.
Number one.
Le Groovy.
598. Fauteuil structure aluminium revêtu de tissu Divina Mélange 681.
C'est absolument agréable, évidemment pas commode, mais que faire.
Oh, c'est beau ça.
Ça c'est... On peint, on cloue, on court, on s'affaire autour des stands du 22e salon des arts ménagers. Les artistes décorateurs ont rivalisé d'audace et d'originalité pour attirer les regards des visiteurs. Sans interruption, des camions livrent les bijoux qui reposeront dans les écrins que les décorateurs leur ont préparés. L'année dernière, 1 313 000 personnes ont visité le salon des arts ménagers.
Le fameux hôtel Nico, dont le lobby était entièrement créé par Paulin, plafond compris, appareil pour téléphoner, bibliothèque, il y avait le canapé Amphis dégagé sur 32 mètres. En rose et rose fuchsia et rouge. Donc tout, c'était spectaculaire.
Et le soir où le salon reste ouvert jusqu'à 23h, c'est-à-dire le lundi, le mercredi et le samedi.
Le mot artiste est un mot... tout le monde est artiste aujourd'hui, ça devient vraiment emmerdant.
Pierre Paulin, designer, 1927-2009.
Je peux vous demander, Michel Rosé, de vous asseoir dans un fauteuil de Paulin pour voir comment on s'assoit. Parce que, par exemple, celui-là, et donc ce fauteuil pumpkin orange avec son petit pouf couleur framboise, quelle est la manière de s'asseoir? Est-ce qu'on est obligé de mettre les pieds sur le pouf?
Non, ce que on peut déjà dire, c'est un siège qui a quelques armatures, mais complètement invisible, je dirais à l'œil et aux fesses. Donc c'est un siège sur lequel on peut se jeter. Des enfants peuvent sauter dedans. Il est ce qu'on pourrait appeler tout en mousse, même si c'est pas exactement vrai, puisqu'il y a une structure mais complètement dissimulée. Mais donc c'est assez rare d'avoir des meubles qui font pas mal déjà, parce que souvent un meuble c'est contendant, ça fait mal, on peut s'y rendre dedans. Donc on est très bien dedans au niveau du confort. Il y a le confort de l'œil parce que c'est dessiné par Paulin et c'est vrai que c'est très bien fait, on voit une harmonie, c'est harmonieux. Et puis c'est un très très bon confort parce qu'on peut rapidement faire une sieste, lire son journal, Et c'est vraiment fait pour rien faire.
Nous, à l'époque, on essayait de donner une définition du design. C'est effectivement la rencontre de la création et de l'industrie. Donc pour nous, quand il y a design, il y a industrie. Sinon, il y a manufacture, il y a artisanat, il y a art décoratif. Et rien n'est péjoratif en soi.
Maya Paulin, sa femme.
Alors, il était devenu véhément, voire violent, n'est-ce pas, Pierre, quand on lui disait qu'il était un artiste. Et il avait une expression assez amusante. Il disait, c'est comme la différence, c'est comme entre le loup et le chien. Je ne suis pas libre, je réponds à des demandes précises d'industriels et je m'adresse, en principe, je souhaiterais m'adresser à un public le plus large possible. Donc je ne suis pas un artiste et je ne risque pas la mort quand je fais quelque chose. Donc il ne se mettait pas en danger puisqu'il avait l'impression de répondre plutôt à un cahier des charges. Comme quand certains industriels italiens lui ont demandé, quand il dessinait un siège ou une table, quel était son regard sur la mort ou son approche vis-à-vis des grands phénomènes du monde. Il répondait, bah quoi, j'ai fait un siège. Donc c'était vraiment ce qu'il pensait.
Nous naviguons dans les sous-sols de plusieurs immeubles. Alors, c'est un parcours à son labyrinthe. Alors, vous voyez, ici, juste ça, j'enlève ça, et vous voyez, il y a un trou. C'est le futur passage qui va communiquer avec la galerie d'à côté. Voilà, on va percer ici. Alors, nous avons un tableau de famille, là, à l'entrée, où figure, au centre, l'image de Pierre.
Pierre Périgaud, galeriste et ami.
Voyez, il est au centre du tableau de famille. Je pense qu'on lui devait bien ça. Parce que...
On est en quelle année sur cette photo? Il a quel âge?
Alors, ça remonte à presque... Il a 45 ans?
Oui, à peu près. Vous voyez, voici notamment son ami Werner Panton, avec qui il avait des relations de...
C'est un de ses rares amis, effectivement. Et ils ont suivi des chemins parallèles... de développement de produits, mais c'était en vraie amitié, une véritable amitié. Au niveau des influences, quelque chose qu'il disait toujours, dès qu'on venait lui parler de son travail, il commençait par parler du travail de ses oncles.
Ah oui, il avait un oncle qui dessinait des automobiles,
voilà, et qui, Georges Paulin, et qui était pour lui quelqu'un d'extrêmement important, et un sculpteur qui s'appelait Freddy Stoll. Donc les deux ont été des marqueurs, on va dire, important de ce qu'il a fait par la suite.
On n'a pas cité sa date de naissance, donc 1927.
Oui, 9 juillet.
9 juillet. Et il naît où? Il est originaire
à Paris 14e.
Sa mère est suisse-allemande.
De Lucerne, voilà. La grand-mère aussi. Alors, il se disait véritable européen, puisque du côté de son père, il pouvait être un peu piémontais, un peu italien, donc un peu germanique de ce côté-là, et donc un vrai français. Dans son caractère, dans son côté ombrageux, dans certaines de ses souffrances, ce passage de la guerre a été effectivement un moment grave, puisqu'il avait 17 ans à la sortie de la guerre et qu'il a vécu ça avec une mère et une grand-mère parlant allemand dans un pays français, avec l'exode puisqu'ils sont allés, toute la famille s'est retrouvée dans le Gers, puis remontée. C'était au-delà du pénible. L'oncle de Pierre et Michel, puisque Pierre a un frère qui s'appelle Michel Paulin et qui est un inventeur en soufflerie, un personnage assez génial, qui est plutôt l'historien de la famille. Donc l'oncle, qui était dessinateur, a été engagé par Rolls-Royce, Bentley, et de ce fait repéré par les services secrets anglais, il a travaillé pour les Anglais en espionnant, en quelque sorte... l'Allemagne, et il a été pris et il a été fusillé au Mont Valérien en 1941. Donc c'est une vraie douleur familiale, et la non-reconnaissance de la France à l'égard de tout ce que son oncle avait fait a beaucoup compté dans la rage de Pierre, je pense. Oui.
J'ai toujours eu besoin de me protéger de l'extérieur parce que je suis probablement fragile. Alors Ça m'a rendu timide et puis aussi agressif. Donc mes rapports avec l'extérieur ont toujours été, sinon conflictuels, ce qui est arrivé très souvent tout de même, difficiles. Vous avez toujours dit que j'étais quelqu'un d'extrêmement instinctif, un peu animal donc, quelque part. Et quand je ne savais pas parler, parce que quand j'étais plus jeune, je ne savais pas du tout parler, du tout communiquer. C'était épouvantable. Et ma table à dessin me servait d'intercesseur avec la collectivité. Comme je suis un être social, je devais communiquer. Alors j'ai trouvé ce moyen-là. Et le dessin des objets, je suis quelque part dessinateur en barreau de chaise, puisque je me suis surtout appliqué à dessiner du mobilier. Mais ça, c'était simplement une opportunité. J'aurais pu dessiner n'importe quoi d'autre. Alors ça, c'est une coiffeuse, oui, une sorte de coiffeuse. Voilà. Alors ça, malheureusement, mise à l'envers, c'est la photo d'un décor que j'avais fait pour un Bertrand Faure, qui est un fabricant d'accessoires pour automobiles, en l'occurrence des sièges, voyez-vous. Et j'ai été viré par la suite du salon de l'auto parce que je faisais pour les fabricants d'accessoires des stands qui étaient plus beaux que ceux de Peugeot, Renault et Citroën. Alors on m'a foutu à la porte.
Là, Dominique Forêt, donc on est dans quel stand? On est dans quel espace?
Alors, on est dans un espace qui est consacré à la reconstruction du Havre, où principalement deux designers vont travailler, René Gabriel et ensuite, à partir des années 50, Marcel Gascoin. Et Marcel Gascoin est très important dans la vie de Paulin, puisqu'après avoir fait l'école Camondo, qui est une école qui dépend d'ailleurs des arts décoratifs, donc où on est actuellement, Paulin va aller chez Marcel Gascoin, qui était un des grands ateliers où la plupart des designers se sont formés. Donc on a un rapport direct et on voit bien par exemple la petite étagère qui est là, qui fait secrétaire, qui est un modèle très typique de Gascoin. Et Paulin va réinterpréter avec un modèle un peu différent ce type de secrétaire qui se replie.
On est en quelle année quand Paulin va faire son stage chez Gascoin?
Au début des années 50, juste avant, donc il commence à être vraiment édité. Alors au tout début, il va s'auto-éditer, comme beaucoup de créateurs qui ont du mal à trouver un éditeur. C'est même un des problèmes de l'époque où les créateurs ont beaucoup de mal à trouver une maison d'édition. Et puis très vite, il va travailler avec deux maisons qui sont moins connues finalement comme étant la maison d'édition de Paulin. On connaît surtout Artifort comme étant sa grande maison d'édition, mais en fait il va commencer avec Tonnet France, pour lequel il va donner beaucoup de sièges, en particulier des sièges qu'on va voir tout de suite en contreplaqué moulé, des bureaux, toute une ligne de bureaux assez petits puisqu'on est dans l'immédiat après-guerre, le besoin de place est très important et donc il y a beaucoup de bureaux un peu type bureau de femme finalement qui sont mis en place, et puis une autre maison qui s'appelle Meubles TV, alors que TV ne voulant pas dire télévision, mais Tricoire et Vecchione, pour lequel il va donner un de ses tout premiers sièges très élaborés, fait comme un anneau un petit peu. C'est-à-dire que le premier Paulin est très typique aussi de tous ses contemporains, c'est plutôt une recherche de fonctionnalisme très important, et on est plutôt dans des lignes très pures, une recherche d'orthogonalité, alors que le Paulin qu'on connaît le plus, c'est au contraire un Paulin qui fait oublier les matières. Souvent, on connaît plutôt le Paulin qui ne montre que de la maille élastique, que du tissu, et pas du tout le premier Paulin qui utilise encore du bois, des matériaux traditionnels. C'est rare. Alors là, on est devant le petit bureau dont je vous parlais, qui est maintenant réédité par Roset, qui est assez typique de l'usage à la fois du stratifié, du bois et la chaise donc qui existe dans cette version. On en a d'autres versions. Alors il va faire beaucoup de choses pour Tonnet. Tonnet qui en fait était le grand spécialiste des collectivités et qui va faire appel à lui pour des gammes complémentaires. Ici sur le stand de Meubles TV, donc TV pour les initiales des deux créateurs, Tricoire et Vecchione, On a aussi une pièce que vous avez ici reproduite dans une publicité de la Maison française, qui est un siège qui a été fait par Pierre Poulin, qui est donc ce siège qui a existé en tissu, mais que nous avons en cuir, et qui est donc fait comme un sac. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir comme une espèce de besace assez souple qui prend la forme du corps. Et ça a été donc une des premières pièces éditées par Poulin avec Meubles TV.
Mais là, on est très tôt parce que je vois sur la publicité que c'est 1956.
Oui, c'est très tôt. Le travail avec Meubles TV, c'est les années 1952-1953, à peu près au même moment qu'avec Tony France.
Je vous passe. Deux meubles, donc chez Baby Boom, enfin aux Arts Déco. Donc celui-ci, c'est le Mushroom. Et puis Little Tulip, qui est aussi un siège très intéressant, qui a eu d'ailleurs un développement également dans le domaine du bureau, c'est-à-dire qu'il était monté aussi sur piètre en roulette, vous voyez.
Et comment arrive Pierre Poulin dans cette histoire?
C'est tout simple. En 1960, j'avais un associé à l'époque qui dirigeait un bureau d'études qui était couplé avec la galerie. Et nous nous rendons au Salon du Meuble, qui était à l'époque un désert bien français. C'est-à-dire que ce n'était pas tout à fait notre regard sur les choses. Et on découvre un lieu là, tout à fait magique. C'était le stand Artifor que Pierre avait aménagé. C'était tout à fait extraordinaire. C'était le bonheur. Si vous voulez en essayer le confort.
D'accord, ça tourne. Effectivement, on a le dos bien calé. Les bras se mettent immédiatement à la bonne position.
Je l'ai vu travailler, Pierre, dans son atelier, avenue Jean Moulin, à Lesia. Il avait son atelier là. Il travaillait la glaise, vous voyez. Il voulait, en quelque sorte, trouver des formes belles, bien sûr, mais absolument fonctionnelles. Donc, il fallait trouver la juste forme qui vous accueille et qui vous soutienne.
Mais pourquoi la glaise? Ça veut dire que les moulages qui...
Non, avant... il le traitait d'abord comme un sculpteur, vous voyez, il sculptait. Et ensuite, on allait mouler en quelque sorte la forme qu'il avait installée en la travaillant comme un sculpteur. Il aurait voulu être sculpteur, mais il ne pouvait pas parce que c'était trop pénible à cause de la main, il avait eu un accident. Mais il pouvait quand même pétrir la pâte, qui était une pâte relativement souple et qui permettait de travailler la forme juste, si vous voulez.
Et cet atelier, alors, il était où?
Avenue Jean Moulin. Tout de suite sur la droite, quand vous êtes au carrefour Alésia, vous avez l'église là derrière vous, vous prenez l'avenue Jean Moulin, tout de suite sur la droite, vous avez une porte cochère, on entrait, sur la gauche, il y avait son atelier au rez-de-chaussée.
Et ça ressemblait à quoi? C'était très vitré?
C'était simplissime. Non, c'était un atelier de travail, de réflexion, vous savez, Pierre, il n'était pas... Voilà. Alors, il faut vous dire une chose. Vous allez entrer dans mon bureau, si vous voulez. Son atelier était très simplissime. C'était, comment dirais-je, un lieu de travail. Et comme il était sauvage, Pierre, donc il se réfugiait un petit peu dans son antre pour y travailler, se concentrer. Et puis, certaines personnes dont je suis, qui nous étions proches. Et puis, d'autre part, c'était important que je vienne voir parce que je participais à la promotion de son travail. Donc, il venait nous montrer un petit peu, nous demander aussi ce que nous en pensions, etc., etc. Il y avait des échanges.
Bruno Racmadou, expert et ancien antiquaire.
Sur le marché, Paul Bert, qui est un marché de tendance, ce qu'on appelle, c'est un peu un marché qui renouvelle régulièrement les idées et remet au goût du jour certaines périodes. Et là, on voit sur le marché actuellement pas mal d'œuvres de Poulin et qui font à peu près toutes les époques. On va voir par-ci par-là, parce que c'est quand même considéré comme un des grands créateurs français, avec Mourgue. Mourgue s'est arrêté très tôt de produire, en 76, il a décidé d'arrêter sa production et de se consacrer au professorat, puisqu'il est prof de dessin, alors que Pierre Poulin a continué à tenter des choses très différentes. C'est ça qui est intéressant, comme un vrai créateur. On va remonter l'allée 6 de Bolberg, l'allée un peu plus design, puisque allée 6, 5 et 7 sont un peu concentrés de design par rapport au Louis XVI et au reste, quoi. Et on va passer devant la petite maison que j'habitais pendant 16 ans. Et en même temps, je vendais les meubles dans lesquels j'habitais, que je mettais en situation pour faire découvrir comment, c'est une expression américaine, you live with, comment on vit avec. Parce que les gens n'osaient pas mélanger les formes, les couleurs, les matériaux. C'est l'époque de prise unique, c'est-à-dire tout ce qui est fibre vert, Marc Held, Marc Berthier, les couleurs, le jersey, les formes ergonomiques, très confortables, un peu au ras du sol, il faut le dire, mais aussi très colorées, très ludiques. C'est un mobilier ludique qui s'opposait un peu à la rigueur de l'après-guerre et des premières créations qui sont assez strictes, comme on vient de le voir sur ce petit bureau. Après ça, il y a eu la fantaisie des formes, tout en étant complètement obnubilé par le confort, l'assise, en adéquation avec la forme. Après ça, la couleur et l'habillement, c'était plus 68 pour se remettre vous voyez, dans la joie de vivre, des 30 glorieuses, quoi.
Permettez-moi de vous offrir un petit café, ou alors un crème, un chocolat, ou alors un Coca-Cola, ou alors un café.
C'est une très belle époque, hein. Il faudrait qu'il y ait plus souvent des 68. C'était une époque de remise en cause. Donc à l'époque, les gens étaient de vrais progressistes, au sens noble du terme, pas au sens politique du mot progressisme, au sens ils cherchaient le progrès, en fait, hein. La nouveauté, les nouveaux matériaux, les nouvelles formes, la nouvelle sociologie, façon de s'asseoir, dont on a profité, parce qu'on a vraiment été les artisans de ça, hein.
Michel Rosé.
Le développement de la société, Lynn Rosé s'est fait vraiment autour de tous ces paramètres. Donc à l'époque, les gens étaient vraiment des modernistes et des... voilà. Alors simplement, son mobilité qui était diffusé par la société Artifort n'était pas très bien diffusé parce que c'était quand même une élite. Puis ça coûtait relativement assez cher, quoi, à l'époque. Mais il avait une clientèle. Moi, je me souviens très bien, alors que je n'étais pas encore dans le business, dans les affaires, qu'on parlait de Paulin.
Bon, allez, c'est un autre confrère qui a des exemples typiques de fauteuils de Paulin. Rugoé de Jersey, la paire de fauteuils Tulip, qui est une paire assez rare, c'est une structure tubulaire recouverte de mousse de Jersey en forme de fleurs qui s'ouvrent.
Très joli, et très, très, très fin.
Et là, nous avons les fameux mushrooms.
En laine bouclette blanche.
Exactement, que Paulin avait utilisé aussi pour le salon Élysée. Une paire de gros lainage bouclé. Voilà, on va rentrer... Donc là, on a justement un fauteuil mushroom, mais de grand format, avec son repose-pied. Ça, c'est le fameux 560, qui a été une des gloires de Paulin, qui a été réédité récemment par Habitat pour une petite série. C'est le petit crapaud transformé, si vous voulez. C'est la même structure, le même petit encombrement, facile à bouger. Il suffit de le soulever et de le faire tourner, et on change de place pour un oui, pour un non.
Il fallait quand même imaginer de dessiner une structure métallique sur laquelle on allait poser une garniture prémoulée, laquelle s'est accompagnée d'un tissu jersey qui permettait aussi de changer quand on voulait la couleur et le tissu.
Voilà. Comme une chaussette, oui.
C'est ça. Et alors, l'idée, là, c'était également, ça part du crapaud, enfin, c'est ce qu'on raconte, mais il était aussi, à l'époque, Pierre était fasciné par l'automobile. Donc il y avait aussi la légèreté du siège automobile qu'il travaillait, et donc la conception de ce siège, et c'est le premier donc de cette série, c'est pour ce siège-là qu'il a mis au point, on va pas dire inventé, parce que c'est pas tout à fait le cas, mais je crois qu'il y a une licence, il y a un brevet qui a été déposé, et au début, comme il ne trouvait pas la matière, il a fait des essais avec du tissu de maillot de bain.
Pour le jersey, pour la matière qui va recouvrir le fauteuil.
Fallait, voilà, et ça... Sans que ça ait l'air de rien, comme ça, c'est une révolution dans le monde de la tapisserie. puisqu'on enlève le tapissier, comme il disait, avec plein de clous dans la bouche en train de taper, on fait de la couture d'une manière industrielle et ensuite on habille et on tend. Donc c'est réellement une évolution dans la conception même des sièges. Et c'est ce siège-là qui le raconte le mieux. Voilà.
Et ça, c'est quelle année? C'est 59
58-59, oui, c'est ça. Oui.
Sur la manière de s'asseoir aussi, on peut aussi parler des sièges collectifs. Parce que pour cet homme qui est d'un caractère très solitaire, c'est quand même lui qui a mis sur pied des canapés qui font 6 mètres de long.
C'était une conception intéressante, effectivement. Il a d'abord eu un canapé qui était destiné plutôt au bureau, qui s'appelle le ABCD chez Artifort, et moi que j'appelle souvent la boîte à œufs. C'était un canapé 3-4 places, mais les places étaient déterminées de telle sorte qu'on puisse s'asseoir sans avoir l'air de frôler son voisin. Puis ensuite, il a dessiné en 69 ce qu'on a appelé, alors nous familièrement, le boudin, qui s'est appelé Osaka, en fils, selon les cas, et qui se vend au maître. Donc en fait, c'est 3 boudins de mousse auxquels on a un pied que l'on peut positionner au sol pour lui donner à peu près la forme qu'on veut et qui est une sorte de serpent. Et ça, c'était en principe aussi un siège dit de collectivité. Sinon, il y a tous les tapissièges, tout son travail à partir, on va dire, du tatami, puisqu'il avait été très influencé par la culture japonaise. Donc, le sol qui bouge, qui devient un siège, ou le mur qui descend et qui devient un siège. Toutes les cultures se sont mélangées dans sa manière de prendre le siège, voilà.
C'est sympa ce soir. Hein?
On voit quand même que dans cette partie de l'exposition des arts décoratifs consacrée aux utopies, 3 modèles de Paulin, si
le ribbon chair, la langue et la déclive.
Dominique Forêt.
C'est un siège d'abord qui est créé au milieu des années 60, qui va être édité, je crois, à peu près vers 1967. Donc, il est quand même assez typique de tous ces sièges qui sont faits pour s'asseoir et se coucher à plusieurs. Ce qui, en soi, était déjà quand même nouveau, forcément. Et en plus, un siège qui est assez audacieux parce que c'est comme un tapis volant. On peut le faire varier, c'est-à-dire que la forme n'est pas fixe. Un siège d'habitude a une forme définie et puis bon, on s'arrête là. Alors que là, on a un système d'écrou qu'on peut faire varier qui du coup permettent de donner une forme différente. Et puis c'était l'idée de se coucher au ras du sol. Alors ce type de siège, il est très spectaculaire par sa taille déjà. C'est un siège qui a été édité par Mobilier International, mais il y a eu très peu de modèles qui ont été vraiment réalisés. Il y avait une version pour l'extérieur aussi. Bon, là, c'est une version tissu, donc fait pour l'intérieur. Mais ça correspond aussi à une typologie qu'on va voir apparaître dans ces années-là. Alors, pas seulement chez Paulin, on va voir apparaître ça chez Hans Hopfer pour Roche-Beaubois, pour Bernard Gauvin, pour Roset, avec des sièges qui sont des sièges collectifs, c'est-à-dire des sièges dans lesquels on peut s'asseoir à plusieurs, qui cassent les codes, on met ses pieds sur les sièges, enfin, on n'est plus du tout dans le... une façon de s'asseoir traditionnelle, et puis en plus des sièges qui en général occupent le centre d'une pièce. Donc c'est la fin des sièges qui sont mis bien sagement en ligne contre les murs aussi. Alors l'impression d'être radical, oui, je pense qu'il l'avait forcément. Quand on fait un siège comme la déclive, on sait bien qu'on fait un siège qui est totalement hors norme. Ça n'est ni un lit, ni un canapé, ça ne ressemble à rien d'autre, il n'y a jamais eu d'antécédent. Vraiment, et c'était une époque où on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup créé. Et je pense que c'est pour ça même qu'on redécouvre cette période, parce que c'est une période qui a cassé les codes.
Le fameux fauteuil mythique de Paulin, c'est le ribbon chair, le fauteuil ruban, dont la publicité à l'époque était fantastique, puisqu'on voyait un fauteuil recouvert d'un tissu psychédélique de Jack Lennon Larsen, en violet, orange, rouge, rose et autre chose, posé sur une piste d'atterrissage avec un avion qui décollait au-dessus. Et la photo est restée célèbre, et c'est un fauteuil pour lequel il a reçu un des plus grands awards aux États-Unis, Best Designer, je ne sais plus quelle année, mais c'était assez magnifique.
Et ça aussi, ça a donné lieu à une scène assez amusante parce qu'il y avait un importateur qui s'appelait Turner aux États-Unis, un importateur d'artifor, et qui avait fait en sorte que Pierre reçoive un très grand prix en 65 ou 66, je ne me souviens plus de l'année. Et alors Pierre, devant une assemblée comme ça peut se faire aux États-Unis à ces moments-là, 500, 600 architectes ou autres, reçoit son prix, remercie et dit... Bon, je suis très content, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi, parce que ce n'est pas mon meilleur siège.
Si on doit un tout petit peu le décrire, ce fauteuil ruban qui est d'une symétrie parfaite.
C'est un ruban continu, en fait, hein, qui épouse absolument la forme du corps et dans lequel, évidemment, on est très confortable. Il est quand même assez grand. Et c'est presque une sculpture autour de laquelle on peut tourner. C'est ce qui l'a rendu un peu connu, d'ailleurs. C'est que très souvent, dans les sièges que Pierre a fait, on peut tourner autour. Donc, il a toujours eu cette sensibilité de l'objet. Mais, comme il le disait lui-même, il n'a jamais fait des choses gratuitement. Et la technique, les matières utilisées, la manière de fabrication de l'industriel impliquait quelque chose. Alors quand il regardait le ribbon chair, il trouvait déjà qu'il avait été un peu fantaisiste.
À quel niveau ?
Mais il trouvait que c'était pas forcément indispensable comme forme. Il avait estimé qu'il avait un peu dépassé ce qu'il estimait être son rôle de concepteur d'objets utiles.
Je dirais que le fauteuil ruban est pour moi trop large en fait, hein, donc je ne peux pas l'éditer parce qu'il est édité. Mais je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un produit iconique en fait. Hein. Mais c'est avant tout un produit iconique. Je l'ai chez un ami et en même temps un autre designer qui est Didier Gomez qui en a un chez lui. C'est un trône, hein. C'est véritablement un trône, c'est fait pour le pape. Hein, je dirais. Mais, donc, mais c'est vrai que c'est très très beau, quoi. C'est magnifique. Quoi. Je veux dire, c'est comme... Ça se fait qu'une fois, puis la forme restera à vie. C'est un peu comme un anneau de Bobbius, quoi, différent. C'est très, très beau.
Alors là, nous sommes à la maison de la radio. On m'a donné un secteur. C'est un foyer d'artistes. Alors je voulais faire un lieu de convivialité avec plusieurs gens, personnes qui pouvaient ainsi se détendre sur ou dans des sièges énormes, confortables, agréables. Et sous un plafond éclairé très doucement qui faisait penser à ces lampes en papier qui ont été très à la mode dans les pays nordiques qui s'appelaient les lampes Klint qui venaient du Danemark. Vous voyez, je suis toujours en rapport avec l'Amérique, avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, avec les pays nordiques ou avec l'Italie du Nord, mais jamais avec les autres mondes. Ici, vous voyez un plafond en jersey qui ressemble à une montagne, une sorte de montagne à l'envers, avec des gueuses de plomb. Donc je reprends le jersey de mes sièges pour en faire un espace. Et finalement, je pense que n'étant pas d'accord avec la manière dont les architectes qui auraient pu m'employer ou dont certains m'ont employé, je m'isolais d'eux parce que je trouvais leur vision architecturale très arrière-gardiste et je voulais... exprimer mes espaces dans un volume que je créais moi-même et que j'animais moi-même. Je suis moins avant-gardiste que Pantone en matière de couleurs d'espace. Je n'aime pas trop faire des colorations violentes, j'aime les couleurs assourdies. Je suis obligé d'adapter des couleurs du moment. Il y a des orangés, comme ceux qui sont dans mon séjour actuellement, de l'époque, qui me gênaient un petit peu. Je préférais des couleurs gris-bleu ou un orangé, mais extrêmement passé. J'aimais des couleurs douces. J'aime toujours, c'est des couleurs assez douces, qui ne soient pas trop... agressive, sauf dans des cas où c'est nécessaire. Par exemple, quand je fais ce siège collectif Osaka bleu-blanc-rouge, là, j'ai la ferme intention de montrer qu'il s'agit de l'aménagement du pavillon français à Osaka et que je dois donc marquer le coup très fort, puisque je suis le représentant de la nation française, je suis payé pour être cela. Vous comprenez ?
Un immense lustre de 9000 tiges et billes de verre suspendu à une grille sous un plafond réflecteur, un aluminium anodisé rose tyrien.
Ça, c'est le plafond des Pompidou.
Ça, c'est le plafond de la salle à manger des appartements privés du rez-de-chaussée. Et ce plafond est classé maintenant et il est encore en place à l'Élysée, puisque tous les autres salons ont été démontés.
Myriam Zuber-Cupisol, du Mobilier National.
Le président Pompidou était très respectueux et confiant dans le travail des créateurs qui avaient été choisis, en l'occurrence Agam et Pierre Paulin, mais il avait posé une seule exigence, celle que l'opération soit réversible. Donc Pierre Paulin a construit des pièces dans les pièces, il disait même « j'ai rechemisé les pièces ». Et donc il a construit des structures, c'était des structures métalliques qui étaient tendues de tissu, de toile grège. Tout ce qu'il a fait était dans une tonalité très chaleureuse, très douce, très conviviale, grège. Et donc reste sur place actuellement la structure garnie de cette toile et le plafond. La salle à manger reste meublée telle qu'à l'origine jusqu'à une époque très récente. Et les mobiliers ont été enlevés tout récemment. Enfin,
il était question qu'en 2008, à peu près, c'est ça, il y a à peu près deux ans, que Nicolas Sarkozy a souhaité changer ce mobilier, mais pas le plafond, puisque le plafond était classé. Voilà. Donc le plafond restera dans l'Élysée ad vitam aeternam.
Bon, ça a été un énorme chantier. Hein,
Donc ça, c'est un fauteuil.
C'est l'un des fauteuils qui était autour de la table de la salle à manger. Ici, donc, la première des pièces qui a été aménagée par Pierre Paulin, c'est donc le salon des tableaux, avec quatre fauteuils, deux canapés, ces tables basses dont le piétement en forme de pétale répond au dessin des fauteuils, avec un plateau en altuglace fumé. C'est un petit peu la version basse de ce que sont les tables de la salle à manger. Hein. Il y avait vraiment une volonté, d'ailleurs si cette opération a pu avoir lieu, c'est parce qu'il y avait une volonté politique de donner une nouvelle image de ce que pouvait être un art de vivre à la française, quoi. Ça c'est sûr.
L'Élysée fait peau neuve. Cinq salons anciens ont été réaménagés à l'aide de pièces de l'époque Napoléon III réunies par le Mobilier National.
Mais ce qui fait la nouveauté du travail des décorateurs à l'Élysée, ce sont trois salons et une salle à manger où le président de la République et Madame Pompidou recevront leurs hôtes en privé. Parmi les visiteurs de cet Élysée nouveau style, Jean Pézieux, notre reporter. Le désigneur, Pierre Paulin, lui a d'abord présenté le salon où sont accrochés au mur des tableaux modernes, signé Matiscou et Varelli.
Interactualité, 15 février 1972.
Au fond, ce sont des grands fauteuils canapés en cuir, ou plus exactement en daim, qu'on m'a demandé pas trop bas, pas trop confortable pour pouvoir travailler. Ce sont des locaux de travail, n'est-ce pas ?
Et la couleur ?
Chamois.
Passons à la deuxième pièce, c'est un salon qui est un salon bibliothèque.
C'est cela, on l'appelle ici le fumoir, mais en fait, vous l'avez bien défini, je crois. Elle est beaucoup plus intime que la première, le plafond est voûté.
Comme une tente, un peu.
Un peu comme une tente, c'est-à-dire que les murs et le plafond sont de la même jetée, si vous voulez. Ça donne un sentiment de plus grande douceur. Et comme l'habillage est en tissu, l'atmosphère est très sereine bien amortie quant à la sonorité.
Et une particularité, c'est le meuble bibliothèque lui-même, si on peut l'appeler meuble, puisqu'il s'agit là d'une matière plastique.
Oui, il s'agit d'altuglas en l'occurrence. Altuglas ou plexiglas, c'est la même matière.
Dans lequel le président a mis des livres qui ne sont pas tous des livres modernes. Il y a beaucoup de livres anciens aux belles reliures.
Oui. Oui, ben ça ne me concerne pas. En l'occurrence, j'ai fait le cadre et le président a ménagé son salon comme il l'a entendu.
Disons qu'il a marié l'ancien et le moderne.
C'est cela.
Dernière pièce, une salle à manger où se trouvent deux tables de couleur brun foncé. En quelle matière ?
En verre. Les plateaux sont en verre et les piétements en aluminium coulé.
Il y a un détail intéressant ici, c'est le plafond.
C'est un plafond lustre. C'est un lustre qui couvre entièrement le plafond.
Un détail aussi, c'est que les murs sont dressés sur des montures tubulaires démontables, je crois.
Ces panneaux viennent s'accrocher, se verrouiller dessus, n'est-ce pas ? Ce qui nous a permis de monter l'ensemble de ces salons en environ un mois et demi, et qui permettrait de les démonter si on voulait retrouver le décor traditionnel qui se trouve derrière, en un mois de temps environ.
Donc il a eu, je pense, quand même la chance d'avoir aussi des chantiers type justement Élysée qui l'ont mis vraiment sur le devant de la scène.
Vous pensez que les chantiers de l'Élysée, donc période Pompidou, puis ensuite Élysée 2 avec le bureau de François Mitterrand, ça a été un tremplin pour lui ou au contraire ça a été très compliqué de gérer l'après-Élysée ?
Ben, je pense que plus l'Élysée de Georges Pompidou, qui était quand même un vrai projet global, ben, je pense que pour lui, ça aurait été une façon quand même de s'exprimer totalement, parce qu'on montre dans l'exposition le stand de meubles et fonctions, qui date donc d'une année avant le projet de l'Élysée, dans lequel il avait déjà utilisé ce principe d'un tissu qui recouvre toute la pièce, une espèce de tente finalement en textile qu'il va aussi utiliser sur certains stands. On a des stands Artifort où il a utilisé ce principe du stand. Donc je pense que l'Élysée, c'était l'occasion de développer ce concept comme il l'avait expérimenté. Donc forcément, c'est quand même un des projets les plus prestigieux.
Bon, alors, Pompidou a fait demander à Courral, administrateur du mobilier national, de bien vouloir choisir une personne qui soit capable de réaliser un espace dans les appartements de l'Élysée qui soit moderne, qui soit contemporain et qui utilise des techniques nouvelles. C'était les conditions. Bon. Ensuite, Jean Courral a découvert trois personnes. Roger Talon venait de dessiner des pelles Poquelin. Alors on s'est dit, ce type-là n'est pas capable d'aménager des espaces à l'Élysée. Moi, je dessinais des abattants de toilettes à l'époque. Alors vous voyez, mais il ne le savait pas. Hein. Ensuite, il y avait un certain Olivier Mourgue, qui était un jeune homme qui travaillait un peu dans ma direction, qui en était à son époque de campeur. Alors on a dit non. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que les jurys internes de l'Élysée m'ont dit par la suite. Non, c'est pas possible. Il est très bien, mais il est trop jeune. Bon. Et puis, il restait moi.
D'abord, il a donné tout ce qu'il avait à donner pour cette commande. Il a bien entendu la demande du président Pompidou qui voulait absolument faire entrer la France dans la modernité et qui donc lui avait donné comme cahier des charges utiliser des matériaux nouveaux, utiliser des choses nouvelles et l'exemple en France devant venir la plupart du temps du plus haut possible, c'était réellement un exemple que le président voulait donner, lui et son épouse.
Maya Paulin.
Voilà, alors une fois que Pierre a eu terminé chantier, comme il s'était donné évidemment totalement à ce projet, mais il s'est retrouvé sans rien, mais vraiment sans rien. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, pas de commande, et comme ça n'était pas quelqu'un qui allait chercher la commande, ça me paraît, n'est-ce pas Pierre? Je pense que tu es convaincu.
Complètement. Je souscris. Oui.
Voilà, donc, voilà.
Donc finalement, ça a été plus un frein alors qu'un tremplin, cette histoire.
Ni un frein, ni un tremplin. En tout cas, ça n'a pas été un tremplin, parce qu'effectivement, Pierre n'a pas cherché à s'appuyer sur la relation ou le réseau qu'il aurait pu avoir à ce moment-là pour se chercher des contrats. Non, il est rentré un peu dans sa coquille. Alors il se trouve qu'on a commencé beaucoup à travailler à ce moment-là. On a commencé à travailler ensemble et j'ai le souvenir du tout premier chantier qu'on a fait pour recommencer en fait et recréer toute une activité autour de lui. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, et tu t'en souviens peut-être, il fallait mieux pas dire que c'était Pierre Paulin. Donc on a créé une société qui était anonyme, de manière à ce qu'il puisse, lui, travailler sans faire peur.
Je crois que le président Pompidou a été un peu comme pour le centre du même nom, un peu surpris du positionnement que j'ai pris dans le rapport à la modernité. Il voyait ça au même titre que le centre Pompidou, il devait le voir en pierre de taille, alors qu'il est arrivé d'un cadre qu'il n'arrivait pas à imaginer. Et il a pris à cette époque-là conseil de gens comme Laclotte, qui connaissait des architectes américains, qui avait des contacts culturels avec beaucoup de gens, pour s'assurer que ce n'était pas une blague, parce que c'était pas son monde. Pas du tout, pas du tout. Mais il a eu l'intelligence de le choisir. Donc, nous sommes dans la bibliothèque qui servait aussi de fumoir. Il y avait une ventilation particulière pour les cigares. Dans la société dirigeante, les cigares de Havane sont très bien vus et même acceptés par les dames. Donc,
on s'engouffre dans la salle à manger, qui cette fois-ci n'est plus en tissu, mais en plastique. Et le plafond de cette salle à manger est à lui tout seul un lustre. On peut dire un plafond à caisson dans lequel j'ai introduit des cannes de cristal et qui crée une espèce de relief à l'envers avec des zones qui descendent comme des stalactites du plafond. Et chacun des caissons est animé, pour pouvoir le nettoyer et l'entretenir, par un moteur d'ascenseur. Ça pèse un poids fantastique, monstrueux, monstrueux.
Nom Giscard d'Estaing. Prénom Valérie René Marie-Georges. Profession président de la République. Adresse Palais de l'Élysée, 55 et 57 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e. Si vous étiez président de la République, c'est ici que vous habiteriez, ici à l'Élysée, qu'on appelle pompeusement le Palais de l'Élysée. Quand je m'y suis installé il y a 4 ans, en 1974, je m'y suis senti mal à l'aise. Je n'en aimais pas l'odeur, renfermé, comme moisi. Quand je me réveillais, j'avais du mal à identifier l'endroit où je me trouvais. Du temps du président Pompidou, épris d'art contemporain, ces pièces avaient été aménagées dans le style décoratif des années 70. Le président Pompidou avait fait transformer par le peintre israélien Agam le petit salon d'entrée en une pièce destinée à abriter la méditation. J'ai souhaité rendre à cette partie des appartements leur caractère antérieur. Le petit salon est devenu le salon des cartes. Le salon a retrouvé son aspect antérieur. La bibliothèque bien astiquée ronronne du plaisir de se retrouver chez elle, et les présidents de la République, ceux du passé et peut-être d'autres dans le futur, pourront y faire prendre leurs photos officielles, devant des rangées de livres qui ne me semblent pas abîmés par la lecture. Quant aux éléments du décor pompidolien, ils ont été soigneusement rassemblés. Seule la salle à manger a conservé son décor gris et blanc. Le plafond est éclairé par une série de stalactites de cristal de longueur variée qui se terminent en arêtes aiguës. Pendant les repas où je les vois osciller, je tremble que l'une d'entre elles ne se détache et ne vienne perforer le crâne d'un invité.
C'est le mobilier pour François Mitterrand. Donc, Mitterrand, voilà. Bleu France, ça s'est appelé.
Ici, on dit bleu Paulin, mais...
C'est un ensemble de mobilier, en fait. C'est pas juste un bureau. Il y a un secrétaire, il y a un canapé, il y a...
Voilà, ça, c'est le fauteuil du bureau. Et puis, donc, le bureau, qui est une déclinaison de celui qu'il avait exposé au Musée des Arts Décoratifs. Et donc, il a créé également donc, des meubles d'accompagnement, quoi. Un petit secrétaire, des meubles de rangement, et puis donc ces fauteuils où on retrouve toujours ce côté corolle.
Pliage aussi.
Oui, aussi pliage, oui.
C'était chez vous ?
Voilà.
Quand je me suis marié, très tôt, en 70, j'ai très rapidement acheté les meubles de mon époque. Et j'ai commencé par deux très gros fauteuils de Pierre Paulin.
Bruno Racmadou.
J'ai oublié le nom, mais c'est comme un grand fauteuil de Philippe, pivotant, qui était fabriqué à partir d'une presse à bois pour donner la forme, et qui après ça a été fabriqué en résine. Et qui était recouvert d'un gros tissu chevron bleu marine et bleu pâle, un gros tweed, et que j'avais mis de chaque côté d'une commode Empire et de mon trumeau directoire de famille. Voilà.
Donc, ça choquait pas ?
Pas du tout. Ben non, c'était là, dans cette maison ici, je faisais du total look. C'était un magasin. Mais dans un habitat personnel, je trouve que le mélange, et seulement ces meubles qui sont extrêmement bien dessinés, fonctionnent aussi bien avec du Louis XVI. J'ai eu ici une fois un couple d'un certain âge, même pour pas dire âgé, 72 et 78 ans, qui avait décidé de changer de mobilier, qui ont enlevé pas mal de Louis XVI, mais qui m'ont acheté un canapé ABCD.
Avec les grandes formes de coque d'œuf.
Voilà, exactement. Pour mettre dans leur salon. Et ils étaient enthousiastes et ça fonctionnait extrêmement bien.
Le siège de Paulin sur lequel on est assis va durer 20 ans. Hein. Comme là, c'est un très beau tissu en laine, c'est inusable, c'est plus solide que du cuir. Ben, ça va durer 15-20 ans. Hein. Puis ça va encore se passer, on va le retrouver au puce. Donc c'est un gros problème. Avant, les gens chinaient moins. Maintenant que tout le monde chine un peu, c'est pas très bon pour les industriels et pour l'emploi.
Et pour vous, Dominique Fauré, Pierre Paulin, il est médiatisé très tôt. Comment ça se passe, sa relation à la célébrité, entre guillemets ?
Je pense qu'il est beaucoup plus médiatisé que d'autres. C'est-à-dire que dans les gens de sa génération, c'est sûr que ça reste avec Charlotte Perriand, qui est d'une génération un petit peu avant, avec Jean Prouvé, avec Roger Talon. Ça reste quand même les quatre, peut-être, créateurs les plus médiatisés. Mais pourquoi ? Lui, sans doute parce qu'il a une carrière déjà assez longue aussi, parce qu'aussi le nombre de pièces réalisées est très important, et puis aussi parce que le marché des antiquaires, des galeries, s'est très tôt intéressé à lui. Donc ça, je pense que la reconnaissance via le marché de l'art est aussi évidemment une forme de reconnaissance. Et chez Paulin, c'est évident que c'est quelque chose qui est très important.
Les tout premiers qui m'ont reconnu, c'est le MoMA. Alors, j'ai été tourmenté parce que je me suis dit, un type qui rentre dans un musée, c'est un homme. Et alors, le MoMA, je dois dire que ça m'en a foutu un coup. J'ai été très impressionné. Je me suis dit, mais dis donc, t'es un type terrible. Comment ça peut se faire que ces gens t'aient découvert ? Un petit Français, quelque part, au fin fond d'une impasse du 14e arrondissement, où j'avais un atelier miteux, avec un seul collaborateur, et au MoMA, ça m'a absolument ahuri.
Parce qu'au départ, Paulin n'avait pas trouvé d'éditeur en France. Il était parti se faire éditer en Belgique, parce qu'il n'avait trouvé personne pour le soutenir dans sa création. Et là aussi, j'étais une dizaine de créateurs, a fait partie de la même équipe. On les voit tous sur une photo, tous alignés les uns que les autres. Et personne en France ne les éditait. Ils ont été édités par Artifort.
Les revues féminines, effectivement, s'intéressaient à quelques-uns d'entre nous, mais d'une façon très aléatoire et pour esbaudir sa clientèle féminine, pas plus. Et les messieurs, présidents de sociétés, autres, s'intéressaient pas du tout à ça. C'était, comme aurait dit Citroën, des garnissages de sièges des voitures, c'est la puierie. Ce que je dis est strictement vrai. Hein. Quand on a fait la DS... Les ingénieurs parlaient de l'aménagement intérieur comme la pouillerie. Voilà. C'était la vision des hommes en France de l'architecture, de tout ce qui n'était pas industrie, ce qui n'était pas quelque chose qui leur ressemblait, qui était des actes valeureux. Hein, pour eux, c'était des trucs pour bonnes femmes. C'était incroyable, hein, incroyable. C'était épouvantable. C'est la raison pour laquelle j'ai été obligé de travailler à l'étranger.
C'était aussi un malentendu que Rosé n'ait pas travaillé avec Paulin, parce que la société était trop jeune à l'époque, mais il était vraiment fait pour travailler avec nous, puisqu'on a été quasiment l'inventeur du siège mousse avec Michel Ducarrois, donc les premiers à commercialiser, je dirais, ce nouveau style de vie, quoi, cet état d'esprit qui était juste après 68, pendant 68 et après 68.
Michel Rosé.
Donc, Oui, ça aurait été tout à fait naturel. Il aurait eu grand plaisir à être avec nous, parce qu'il adorait les matières, et surtout les matériaux nouveaux, innovants. Donc, ça aurait été un grand plaisir de travailler avec lui. Bon, ça s'est pas fait, quoi. Moi, j'étais en culotte courte, ou du moins sur les barricades, et voilà. Donc, ça s'est fait après. Hein.
Et du coup, ça se fait en 2007-2008. Vous lui passez commande de quelque chose? Vous lui donnez un cahier des charges? Ou c'est de toute façon, c'est la carte blanche?
Non, vu sa réputation, sa notoriété, son talent, c'est forcément carte blanche. Mais quoi, carte blanche? Dès qu'on parlait professionnel, on s'entendait tout de suite. Hein, c'est comme un aimant, ça allait tout de suite. Donc très rapidement, on a parlé du siège de Pompidou, hein, qui était le plus proche un peu de ce qu'on appréciait, puis qu'on avait pu faire, même plus ou moins à l'époque. Donc on l'a appelé Pumpkin parce qu'on l'a fait. Il est différent, c'est pas une réédition. Donc on a fait et des rééditions. Et des choses nouvelles, et des choses proches, et des choses un peu nouvelles, complètement nouvelles. Parce qu'il était extra, hein, quand même. Comme il avait une revanche à prendre un peu sur on l'avait mis en quarantaine, quoi, un peu longue. Donc c'était fabuleux, hein, le plaisir qu'il a pris à la fin de sa vie à refaire des choses, à retravailler, être considéré. C'était un grand plaisir d'être avec ce gaillard. Et quand même, qui était autodidacte, qui n'avait pas le bac, hein, je veux dire, et qui avait une analyse et un jugement sur les choses. Il avait talent, alors ça, un talent remarquable parce que, il avait l'ordinateur dans la tête, hein, les volumes, les protos, ça tombait comme un couturier. Il pensait en trois dimensions, quoi, à chaque fois. Donc, ça, c'était remarquable. Donc, très, très facile de travailler avec lui et très ouvert malgré son âge. En fait, il était abrupt et un peu rigide, bon, vu son âge, vu un certain nombre de déceptions. Mais dès qu'il rentrait dans le domaine professionnel, plastique. Et avec les mains, il avait une intelligence fabuleuse, quoi. Les mains et bien sûr la tête. Hein, voilà. Donc c'était un plaisir de travailler avec lui. Hein. D'ailleurs, les prototypistes qu'on travaillait avec lui, on n'en revenait pas. Hein.
Et les chaises dites, les chaises longues en forme de langue, là?
Justement.
C'est des choses qu'on retrouve encore pas mal.
Bien sûr, oui, oui. Nous organisons 3 ou 4 ventes design par an. Et j'avais trouvé un lot de fauteuils Tong, langue de Paulin, vert pomme et orange. Et connaissant le président de l'établissement de Versailles, j'avais demandé à faire la photo du catalogue et de l'affiche en mettant 3 langues de Paulin devant le bassin de Neptune, devant la façade de Versailles. Et là, je trouvais que Paulin, c'était le sacre total que de le mettre à Versailles avec le roi Soleil. J'étais avec ma petite camionnette, je suis arrivé au milieu des touristes japonais, j'ai posé mes langues, j'ai choisi, j'avais un photographe. On a essayé, les Japonais sont assis, ils vont essayer, ils sont pris en photo. Non, c'était ludique. Et c'est une affiche et une couverture de catalogue qui a plu, les gens s'en souviennent encore. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Ah, mais c'est vous qui avez fait les photos de Paulin à Versailles ?»
Avec Maya Paulin, Myriam Zuber-Cupissol, Dominique Fauré, Pierre Périgaud, Michel Rosé et Bruno Racmadou. Extrait « Le pouvoir et la vie » de Valéry Giscard d'Estaing, lu par Antoine Lachant. Archivina, Martine Auger. Prise de son, Pascal Baudin, Alain Gérard, Jean-Marie Porcher et David Durand. Mixage, Alain Joubert. Pierre Paulin, designer. Une émission d'Emmanuel Paul et Céline Terce.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec celle qui raconte, avec humour, la dépendance des femmes anglaises, Jane Austen.